Trace de lumière, une émission présentée par Christian Malaplate avec Stéphane Marin à la technique. Dans la première partie de l'émission, je vais lire quelques poèmes extraits de mon dernier recueil, Les yeux ouverts sur les pensées de la nuit. La revue Vibration, l'église protestante unie de Montpellier et agglomération, m'avait demandé d'écrire un texte sur quel travail sur eux-mêmes ont vécu les disciples de Jésus pour que se passe en eux un déclic à Pâques. Les disciples de Jésus cherchent les signes de l'Esprit par main état de grâce et s'unissent aux voix humaines pour appeler sur la création la bénédiction du Créateur. Et dans mes écrits poétiques, je chemine dans l'univers des ondes vers les langues de feu et les illuminations de l'Esprit. Je traverse des territoires étranges, des cités interdites, des forêts symboliques, des enclos d'innocence, des domaines d'amour et des lieux de contemplation absolue. J'ai souhaité aussi répondre en citant quelques extraits de mes poèmes parmi les longs échos, les vibrations de la vie. Écoute les longs échos des voix qui se sont tues. Elles sont le secret des êtres et des choses. On a en soi des émotions fugitives, déjà éprouvées. Elles façonnent parfois les nervures de notre musique intérieure. À travers des miroirs, les errances et les doutes donnent des rythmes, des images, des bruissements, des confidences. Les escales et les regrets inspirent de lointains appels. Ils traduisent dans l'hésitation et le recueillement les murmures du cœur. Tout homme est une histoire sacrée. Il respire au rythme universel de tous les hommes. Autour de l'Eucharistie, qui est le centre de l'histoire du monde, l'homme veut partager l'écho de la parole qui s'est fait chair. Souviens-toi que parfois dans tes rêves diaphanes, tu crois entendre un appel et tu vois poindre une lumière irisée. Des larmes sans raison tracent sur ton visage une tristesse indéfinie. Ton âme aspire à une image originelle de la vie. Souviens-toi que tu fais partie du grand voyage et à chaque souffle qui émane ton être, tu te rapproches ou tu t'éloignes de ta propre vérité. Tu recherches des lieux autels et des stèles mémoires. Souviens-toi que tu dois accepter les phases de la nuit dans le plus grand silence, parce que dans le ventre obscur de la terre, germe le fruit. Tu te dévais de tes souvenirs et tu déverses sur ta blessure un vin frais et pur qui te donne une rosée de saveur. Souviens-toi que les paroles secrètes ont toujours une source vie. Tu laisses monter la sève de ta prière du profond de tes racines. Tu bois la coupe de l'éveil, tu aiguillonnes ton âme sans répit. Tu dois laver tes yeux, tes idoles et des ombres qui s'y agitent. Souviens-toi qu'il te faut te défaire de tes voiles de préoccupation avant de lire à page ouverte le livre de ton être. Dans le miroir de la nuit, tes blessures intérieures s'imprègnent d'une multitude d'images et elles te font voyager vers ce lieu secret où coïncident les purs regards émergeants du nuant. Souviens-toi que tu dois tenter de dissiper ton océan de ténèbres. Tu dois chercher les nourritures bénéfiques loin des tentations du paradis. Il te faut traverser les mers houleuses de ton âme sans te munir d'un solide vaisseau. Tu n'exiges pas de miracle, tu exposes seulement tes voiles au vent porteur. Souviens-toi que tu dois labourer ton champ sans t'inquiéter des nouvelles du ciel. Tu ne te fies pas à l'apparence de tes actes, car c'est l'intention qui les traverse, qui insuffle la vie. Sache qu'au-delà de la multitude des formes, seules sont à l'œuvre les qualités de la perfection. Il te faut être ce voyageur qui s'élève sur les flancs de la montagne. Souviens-toi que les mots ne sont que le parfum du cœur. Ils peuvent être la semence de l'arbre de vie et des puits de lumière. Il est impossible pour tout vrai voyageur de rester insensible aux puissances du verbe, aux enchantements de l'image, aux myriades de vibrations que procure la beauté du monde.
Thank you.
Dans cette deuxième partie de l'émission, je reçois Marie Thuillier, poète, conteuse, à l'origine de quelques festivals de poésie dans notre région. Bonjour Marie.
Bonjour Christian, bonjour à tous.
Pour toi, l'écriture et la poésie reflètent les vibrations de la vie entre une quête personnelle et un engagement social.
Alors absolument. Pour moi, écriture et poésie sont une seule et même chose et sont le prolongement d'une posture personnelle de vie, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc par exemple, j'ai en fait deux piliers dans ma vie personnelle. C'est une quête personnelle et un engagement social. Alors la quête personnelle, c'est une recherche en développement personnel et spirituel, de méditation, de prière, de sincérité, de simplicité. Donc un travail de longue haleine et je pense que ça m'occupera une bonne partie de ma vie. Peut-être même au-delà, j'espère. Et puis l'engagement social, de par d'abord ma formation professionnelle, et puis mon travail, et ensuite mon écriture. Donc envers les générations, la jeunesse, les personnes exclues, les personnes âgées, l'humain au sens large du terme. Et donc j'ai des portraits, des fables, des poésies de voyage, des itinérances intérieures, des poèmes plus engagés sur ce thème. La paix et le spirituel, avec des recueils qui proposent des méditations poétiques, mais aussi des contes spirituels, et encore de la poésie engagée. Et puis bien entendu, Dame Nature, j'ai envie d'écrire pour la paix, pour la beauté, pour faire du bien aux gens, pour la lumière, pour aller avec ton émission.
D'accord, alors ça veut dire que la poésie pour toi est un grand partage.
Oui.
Tu écris depuis l'enfance, pourquoi ce besoin d'écriture que l'on retrouve à la fois dans ta vie personnelle et bien sûr dans ta vie professionnelle?
Mais ça, je pense que c'est assez inexplicable, c'est dans le mystère de moi-même, parce que j'écris depuis que je suis enfant, et donc ça m'a accompagnée depuis toujours, donc c'est une compagne de chaque instant. Et donc ensuite, j'ai voulu toujours faire le lien entre mes aspirations personnelles et mon quotidien et la vie que je voulais mener. Donc à partir de là... un parcours éclectique, j'ai un peu un parcours professionnel atypique où j'ai fait des études supérieures à la fac, mais je m'ennuyais beaucoup en fac de lettres, alors je suis partie du côté des carrières sociales et parce que depuis très jeune je voulais m'occuper des plus démunis et donc notamment des enfants en difficulté, des enfants brisés, des enfants qu'on appelle de la DAS. Et donc j'ai commencé à travailler comme ça, comme animatrice. Et je me suis perfectionnée en ingénierie sociale et de formation. Et ensuite, j'ai travaillé en insertion des publics en difficulté pendant toutes les années 90. Et toujours avec l'écriture à mes côtés. Donc c'est pourquoi, par exemple, il y a le recueil « J'écrirai pour vous dire » qui rend témoignage un petit peu à cette jeunesse brisée et un petit peu le parcours de vie qu'il faut qu'il fasse pour pouvoir s'en sortir avec des valeurs que j'aimerais bien, moi, leur faire partager. Et puis ensuite, j'ai créé à la naissance de ma fille mon activité libérale d'ingénierie de formation. J'intervenais pour gérer les compétences en entreprise. Et en même temps, j'ai plusieurs vies en une seule. je donne depuis 98 des cours de tai chi, de qigong en entreprise. Et là, c'est à cause, entre guillemets, de mon mari chinois. Donc ça a donné une autre ouverture encore à ma vie, à mon évolution personnelle.
Je crois qu'on trouve beaucoup de contes philosophiques d'origine chinoise.
Oui, c'est vrai que la sensibilité, la mystique chinoise, la tradition magnifique de la Chine m'émerveille. Et j'ai trouvé beaucoup de résonance entre ce que je suis et ce que j'ai trouvé là-bas. Voilà, et en 2011, donc, je me décide à publier mes écrits. En 2012, je suis admise à la Société des poètes français. Et là, je dois dire que grâce à toi, Christian, et grâce à Vital Hurtubise, qui est le président de la Société des poètes français, il y a une accélération pour moi. Et donc,
Il y a la qualité de tes écrits aussi.
Voilà, donc ça me permet de partager ces choses que j'écrivais jusqu'à présent pour moi-même et mes proches.
Alors, on arrive bien sûr à un grand moment aussi de manifestation poétique à Saint-Jean-de-Buège pour la fête du livre. Comment est née cette volonté?
Alors, au départ, je fais partie d'un club d'auteurs régional, de par mon éditeur Edi Livre. Ça s'appelle le Club Régional d'Auteurs Edi Livre Languedoc-Roussillon. Et donc, chaque région de France a son club d'auteurs. Et moi, je faisais partie des responsables régionaux. Et donc, on a souhaité essayer de donner un coup de pouce aux auteurs qui écrivent dans l'ombre et de les rattacher un petit peu à une vie du terroir. On a des terroirs magnifiques en région. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas trouver un petit village beau, accueillant, qui souhaiterait donc, qui serait d'accord pour qu'on lance quelque chose. Et donc, en 2013, en 2013, a eu lieu, donc, au village médiéval de Saint-Jean-de-Buège, la première édition d'une fête du livre et du patrimoine qui était sous le signe de la Saint-Jordi, c'est-à-dire Saint-Georges, la fête du livre et de la rose. Voilà. Et donc, avec Christian Malaplatte comme président d'honneur et puis Jean Joubert aussi comme président d'honneur, l'idée, c'était de rassembler à la fois des auteurs du coin, les faire sortir de l'ombre et les relier au patrimoine local. Voilà. Et l'année dernière, on a fait l'édition 2014. Et donc, il y a eu quand même plus de 50 exposants, auteurs et photographes et peintres locaux.
Mais ce qui est surprenant, c'est de voir tout ce monde qui est venu nous rendre visite pendant ce festival. Parce que c'est un peu en retrait, ce village-là.
Oui, c'est une belle surprise. Je pense que les gens sont attachés à l'arrière-pays de Montpellier qui est superbe. Et ils connaissent aussi le village. Il y a des gens aussi qui aiment le livre, qui aiment rencontrer les auteurs. Et c'est vrai que c'est fait pour ça.
Alors on va t'écouter, puisque tu as choisi de nous lire quelques textes. Ces textes sont extraits de quel livre ?
Alors je vous ai fait un petit panel. Donc il y en a qui sont extraits de mon recueil « Pour que danse l'enfance ». Aux éditions à fleur d'âme, et d'autres, il y en a un qui est inédit que je vais vous lire tout à l'heure, quelques-uns qui sont inédits et qui vont faire l'objet d'un recueil certainement très prochainement. Alors le premier poème parle justement du village où j'ai grandi, qui est Castries, pas très loin de Montpellier. Ça s'appelle Mon village aux trois collines, et j'avais envie de rendre hommage à ce village auquel je suis très attachée. C'est un village à trois collines, au ciel de la vie transparent, noyé de lumière, balayé par les vents. Au sortir de l'enfance, il m'accueillit un jour, et je ne m'en lasse pas d'en toujours faire le tour. Par des chemins de douce errance, il m'ensorcelle et me conduit, s'envole sous mes pas, romarins et petites fleurs, sur des sentiers nouveaux que je connais par cœur. Le regard se perd au loin, et puis soudain s'accroche aux tuiles du château, passant dessous le porche. Le jardin de Le Nôtre ouvre ses haies secrètes, murmurent les fontaines et les oiseaux en fête. À la paisible église, voici que sonnent les cloches, se gonfle le cœur qui prie. Puis viennent les calèches dans les vieilles rues de pierre. On entend les chevaux des rois mages de Noël, des gardiens de taureaux. C'est un village à trois collines. Une colline de garrigues sèches, une colline de pins craquants, une colline de ruelles vieilles. Sur la première se voit la mer. Sur la seconde, s'écoutent les vents. Sur la troisième, les matins clairs s'y entendent des rires d'enfants. L'acadoule pousse ses ondes en des roulis secrets. Jeune fille, ici je m'en allais, rêver au vent d'azur, cueillir des fleurs, manger des baies. Sur le pont des Touris est monté mon aimé, et les oiseaux chantent encore, ce baiser est déposé, lorsque dansait pour lui mon voile de mariée. Dans la sève montante se balancent les pins, et la résine craque aux arches centenaires. De l'aqueduc silencieux, aux pierres solitaires, le cœur s'émeut sans cesse à ce génie humain. Au loin, la capellette appelle les clochettes du berger sous son ombre. Il s'en ira là-bas, tout en haut des grands causses, puis reviendra un soir d'automne rose. Dans les champs d'amandiers se balance un oiseau. Il chantera pour toi quand l'automne reviendra. Il se prendra aux vignes et aux couleurs du soir. Sous les tonnelles au rire, les familles viendront boire. Dans mon village chante ma mère, entendez-vous sa voix ? Hurlant chaque colline et le cœur de mon père, gonflant depuis toujours, mon cœur en émoi. C'est un village à trois collines. Dans la lumière, ma grand-mère m'ouvrait grand ses deux bras. Appuyée sur sa canne, à petits pas comptés, trottinait mon grand-père au jour des heures bleutées. Ils dorment aujourd'hui au nouveau cimetière. En six villages j'ai grandi, et leur amour si fier s'est logé pour toujours dans mon cœur et les pierres. Les cloches de l'hier cogne à mourir d'enfant, sonnant d'entre les heures les souvenirs d'antan. Aux crinières des chevaux galope mon enfant. C'est un village à trois collines, une colline de garrigues sèches, une colline de pins craquants, une colline de ruelles vieilles où les gens se connaissent, se rencontrent en riant. Dans les vapeurs des souvenirs, ce soir, ma vie s'épanche et prie. Que vive mon doux village au cœur brûlant du chaud midi.
Mais l'hommage à ton village. Un autre poème.
Alors, je vais vous parler de la femme. La femme. Dans les voiles du vent, elle se love et s'enroule, mêlant sa propre vie à la laine des cimes. Devant l'âtre du soir, elle danse, puis soupire. Dans ses deux mains unies, la vie tremble et respire. Puis, quand vient le printemps, son ventre est lourd et rond. Elle prépare des enfants pour les donner au monde. Quand les enfants sont là, elle y met toute sa joie. Ils font battre son cœur et tout l'espoir du monde. Elle marche sur les routes de l'amour, des pensées. Elle puise dans le ciel au souffle de vérité pour guider ce qu'elle veille sur de nouveaux sentiers. Et quand le monde tombe, elle accourt sous les bombes. Avec le sang de ses larmes, elle recouvre chaque drame. Elle cherche dans les cœurs un petit signe d'espoir qui serait son repos et sa paix et sa gloire. Y a-t-il quelque part une terre, une mer, une île, un rivage immobile, velouté comme un soir? Elle se blottit parfois près de l'homme qu'elle aime, puis ira la force de la terre et du feu pour repartir plus forte et transformer les terres en de nouvelles terres et pour de nouveaux cieux.
Un autre encore.
Un poème inédit qui s'appelle « À l'ombre des arbres en paix » qui a été écrit il n'y a pas très longtemps. À l'ombre des arbres en paix, près de toi venir m'asseoir et goûter avec toi cet amour partagé. Moi, je ne sais rien d'autre que mon cœur qui bat. Et je plonge en tes yeux qui m'aiment et qui me sauvent. Mon amour, mon époux, mon ami, mon aimé. À l'ombre des arbres en paix, savourer ce temps qui passe et qui fait de nous et qui fait de toi. Puis regarder les feuilles qui bruissent dans la brise, la danse des écureuils, le rouge des cerises. À l'ombre des arbres en paix, pleurer la fleur fragile qui chaque fois renaît au loc des missiles. Et apaiser nos drames et nos blessures obscures à la douceur des palmes, à l'abri des fêlures. Nos enfants marcheront, unis, main dans la main, sur cette terre nouvelle que notre cœur souffre et prie. À l'ombre des arbres en paix se prépare notre belle, comme ton amour me revêt de ses plus beaux habits.
Tu te lèveras tôt, tu mettras ton capot et tu iras dehors. L'arbre dans ta ruelle, le bonhomme dans le port, les yeux des demoiselles et le bébé qui dort. C'est à toi tout cela. Tu toucheras la terre, la mer porteuse d'île. Tu verras les bateaux, la barrière de moine, le château et le pont et tous les champs d'avoine. C'est ton pays. Et tu rentreras lourd pour avoir fait le tour de ce qui est à toi. Tu diras à ta mère que l'horizon est clair et elle sera fière d'être de ce pays-là. Il y a le comté des pommes, celui des pêcheurs et des bêtes de somme. L'autre des flâneries. Il y a le moulin assis, le facteur, le voleur, la politiquerie, la neige et les couleurs. C'est à toi tout cela. Il y a les faiseurs de chaises, les faiseurs de chaloupes et les faiseurs de pain. Et les faiseurs de rien. Il y a les retardataires, les mariages, les colères, les grands-mères aussi et les cordonneries. C'est ton pays. Les cloches dans les clochers, les 80 comtés, les 50 000 écoles et l'or dessous le sol. Les villes qui commencent, celles qui continuent avec toi par-dessus. Et les siècles qui naissent au fond des nues. Tu te lèveras tôt, tu mettras ton capot et tu iras dehors.
Contempler, méditer, prier sont des moments très forts dans ta vie, Marie.
Et on va dire que c'est le noyau central, voilà. Moi, je suis de confession chrétienne et je suis sensible à la sagesse depuis toujours, je crois, des grands maîtres orientaux et contemplatifs du monde entier, de toute confession. Donc il me tient à cœur de rendre accessible cet héritage de sagesse, d'amour universel. Je pense que connaître le divin, se rapprocher de lui, pour le faire naître en soi, je pense que c'est ça l'avenir du monde.
Oui. Et tu portes un regard sur notre monde moderne et ses problématiques humaines et l'envie d'y remédier.
Alors ça, c'est ma casquette un peu de militante sociale, on va dire. Quand on accompagne des gens en souffrance et qui sont brisés par la vie, on se dit, mais que comme il y a de blessures, comme il y a de la souffrance, et tout ça, ce sont des blessures d'amour à l'origine. Donc, un manque d'attention, des problèmes d'intolérance, et c'est toujours, finalement, des histoires d'ego qui brisent les êtres. Donc, moi, je considère que nos sociétés modernes, elles sont tellement pauvres spirituellement que c'est ça qui nous brise. Et je pense qu'elles sont perdues si elles persistent sur cette voie de la violence, du terrorisme, les corporatismes, les lobbies multinationaux, le mépris de l'autre et les minorités.
Alors, on parle aussi de la notion d'âme pour toi. Tu parles de la notion d'âme.
Alors, je pense que c'est ça qui sauve l'âme. Je pense que c'est là où il faut plonger de toute urgence pour pouvoir naître à soi-même et entrer dans un véritable cheminement d'accomplissement personnel. Il me semble que finalement, sur Terre, on est là pour découvrir son âme et finalement se dépouiller au fur et à mesure de tout ce qui nous encombre et nous empêche de révéler notre âme.
Et tu parles d'une sorte d'engagement personnel en dénonçant les exclusions. L'exclusion, par exemple, des personnes âgées, l'exclusion des jeunes. Et ça t'a beaucoup marqué au travers de ta vie, tout cela ?
Je trouve ça intolérable. Je trouve que c'est insupportable de voir comment nos égoïsmes ont, comment dire, saucissonné nos sociétés, ont ghettoisé les gens par sexe, par tranche d'âge, je le dis sans arrêt. Et moi, ça me révolte. Voilà, et donc ça, c'est l'ego, ce sont les fruits de l'ego. Alors, l'âme, au contraire, elle est pure, elle est force, elle est pur amour, elle est graine divine. Et donc, mais les gens, souvent, maintenant, ils ont oublié jusqu'à la notion d'âme. Donc, pour moi, finalement, je fais le lien directement. Je me dis, si les gens découvraient qu'ils avaient une âme, et combien c'est beau, une âme humaine, il n'y aurait plus toutes ces choses. Et c'est le thème de beaucoup de mes écrits, notamment un livre que j'ai écrit à l'âge de 22 ans, qui est un conte philosophique qui s'appelle « La petite fille aux feuilles de feu », paru aux éditions Edi Livre en 2011. Et cette petite fille aux feuilles de feu, bon, j'ai inventé ce personnage pour personnifier l'âme en chemin sur la terre, dans notre monde moderne. Et donc j'ai voulu provoquer un petit peu les choses en disant, tiens, si l'âme, tout à coup, elle venait frapper à la porte de nos égos et de nos vies étriquées, qu'est-ce qui se passerait ? Et c'est ce que je raconte dans ce livre. Et puis un peu plus récemment, en 2013, j'ai écrit donc sous couvert de, on va dire, de culture traditionnelle chinoise, Contes et enseignements de Maître Chen. Et dans cette même idée, j'ai voulu aborder, en fait, par une autre clé, une autre entrée, aborder les épreuves de la vie quotidienne, dont personne finalement n'échappe. Le deuil, je ne sais pas, la jalousie, les rivalités, et se dire finalement, à travers les drames de nos existences ou des épreuves du quotidien, il y a une solution, encore une fois, plongée en son âme. Et le vieux maître Chen est là pour nous dispenser ses enseignements.
Donc c'est un personnage totalement inventé qui dispense un petit enseignement de sagesse à la manière des maîtres chinois d'autrefois. Nous avons eu l'occasion d'en écouter deux, il nous manquait le troisième que l'on aura l'occasion d'écouter peut-être tout à l'heure.
Avec plaisir.
Alors maintenant on va faire une lecture à nouveau.
Alors je vous ai fait encore une petite sélection. Donc là les extraits des poèmes sont tirés du recueil « Les volcans de braise » aux éditions « À fleur d'âme »,« Pour que danse l'enfance et pour que chante l'enfance », édition Edi Livre et édition « À fleur d'âme ». Et je crois que j'ai rien oublié. Voilà. Alors, je vais vous lire le premier poème. « Quand l'homme devient prière. Seul dans le monde se tient l'homme. Il ne tient pas plus de place qu'une fleur sur l'horizon. » Il ne laisse ni bruit ni trace, à peine prononce-t-il un son. Quand l'homme devient prière, doucement il s'efface, il se fond dans le ciel. À chaque instant il appelle à tout ce qui console, à tout ce qui unit, à tout ce qui pardonne, à tout ce qui sourit. Quelquefois il pleure aussi, et coule une larme de l'homme pont, de l'homme cœur. Elle rejoint l'invisible foule des hommes qui souffrent et fuient ce qui détruit. Est-il sage? Est-il fou? D'où qu'il soit, celui qui prie élève avec lui le monde au prix de chaque battement de cœur. De ce qu'il dit en ce qu'il tait, seule la terre et le ciel en savent le secret. Le premier chant. Écoute le premier chant. Celui donné à l'homme et qui pétrit la vie, lui donne toute forme. La vie d'abord est souffle. Elle vient du grand cœur d'amour d'où nous provenons tous. Les pierres, les arbres, les lions, les fleurs, la mer et le petit brin d'herbe, le soleil qui monte à midi. Et quand revient la lune chaque soir dans le ciel, regarde-la qui te sourit. Tu viens de là, bien avant toute chose. Et puis un homme, et puis une femme. Voici un autre mystère, que celui des corps qui s'aiment unis au grand infini. Voici ton origine, voici ta vraie patrie. Tu es d'amour, tu es de souffle, bien avant que d'être de chair et de sang. C'est pourquoi la vie est fragile et ne se peut malmener. Prends soin de ce qui t'est donné, et dans un vase d'argile, veille comme un trésor précieux ce grand mystère d'amour que tu es. S'il suffisait. S'il suffisait seulement d'ouvrir son âme à Dieu, tel un petit enfant s'ouvrir au premier chant, tomberaient nos chaînes de doutes et de tourments? Cesseraient les drames d'horreur? Et les puissants, sûrement, couleraient les fontaines de paix pour notre temps. Et s'il suffisait seulement d'ouvrir son âme au premier chant? Un texte qui s'appelle Tao. Le vieux maître disait « Qu'est-ce qu'un homme ? » Celui qui ouvre le monde à l'enfant et le construit pendant qu'il vit, garant des harmonies. Qu'est-ce qu'une femme ? Celle qui donne au monde l'enfant pour qu'il croisse et grandisse, unie aux harmonies. L'un et l'autre unique et cependant indissociable, pierre angulaire de l'infini. L'enfant les prolonge tous deux pour réenchanter la vie. Les choses étaient ainsi, aujourd'hui c'est fini. Brisez l'ordre des choses de la grande harmonie. Entre en ton âme et œuvre-la aux équilibres du monde dont tu es le gardien jusqu'à l'heure de ta tombe.
Extrait des Volcans de Braise.
Extrait des Volcans de Braise.
Qui a eu le premier prix aux Jeux Floraux du Béarn.
Oui. L'horizon des jours. À l'infini, ces étendues de fleurs sauvages, tendres et ténues, portent mon cœur sur l'horizon des nouveaux jours et des bourgeons. Je pense à cette terre qu'on nous donnait un jour et à cette douce flamme que l'on devait veiller. Je regarde les montagnes, lovées comme au chaton, dans le pli des campagnes faisant petit vallon. Et j'entends la rivière chanter à qui mieux, la romance si fière des pauvres gens heureux qui veillent sur la terre par leurs sueurs et leurs chants. Les berceuses des mers s'endorment en soupirant. D'autres ailleurs ont tant à faire, à tout casser, à tout détruire, faire exploser les pierres, piller le potager, briser les tombes de nos pères au nom des florissantes cités. Ce soir, chante la rivière, et mes larmes esselées supplient qu'intacte reste la terre que l'on nous a donnée.
Thank you.
Éveil, partage, amitié fraternelle, pour toi, c'est aller vers une nouvelle humanité?
Oui, je pense que, d'ailleurs on voit un petit peu partout maintenant, dans les quartiers, dans les villages, en France, mais partout dans le monde, des décisions un peu citoyennes, où les gens, ils n'en peuvent plus de toutes ces choses. Il y a un vrai dictat de la société de consommation, un vrai dictat, j'ai envie de dire, de la normalisation, de la banalisation, et les gens, ils étouffent. Et je pense qu'on ne peut pas les priver de ce qu'ils ont besoin d'être. Et donc, de plus en plus, les gens se relient. Là, on le voit avec les inondations qui se passent chez nous depuis quelques temps. Et apparemment, dans les villages de Ganges et alentour, on dresse des tables. Les gens, ils n'ont plus rien. Et bien, ils se mettent autour de la table et ils mangent ensemble.
Tu as l'impression que le citoyen devient plus responsable, qu'il est conscient de l'évolution de la vie, qu'il faut la modifier?
Je pense qu'il est poussé tellement à bout par les puissants de ce monde qui ont détourné la vie à leur propre profit. Je vais loin, hein, mais c'est vraiment ma pensée.
Non, c'est important.
Et donc, ils ont carrément racketté les choses de la vie. Et les choses de la vie, les dons de la vie, les dons du ciel sont faits pour les hommes, pas pour le pouvoir.
Alors, tu as écrit « Méditation au mont Yuan San ».
Oui. Alors, un poème qui s'appelle « Moi, je ne suis rien ». Moi, je ne suis rien qu'un reflet d'enfant, un sourire qui passe, une poussière de vent. Je voudrais pourtant que les fontaines existent au plus profond des gens et que les enfants tristes sourient au même instant. Et je rêve souvent à ce royaume immense où chaque regard de vie est un regard d'enfant. Élévation et fondement. À chaque marche ployée puis se redresser. À chaque pas poursuivre pour toujours avancer. Le cou meurtri, le dos courbé, sans jamais gémir ni soupirer. C'est la dure marche des hommes sans nom, des hommes sans âge, la longue marche des heures gravissant la montagne. Ce qui fait tomber l'homme l'élève à chaque pas. Ce qui élève fond de l'homme, le fondement de l'homme est l'élévation. Les chemins de pauvreté, un texte inédit. Pareil aux feuilles d'or s'envolant par les toits, que je puisse en la brise jusqu'aux cimes vivantes, ouvrir grand mon âme au parfum des sous-bois, et revenir plus riche, et plus simple, et plus grande. Il est temps de sentiers inutiles et si lourds à laisser derrière soi, avant qu'un coup d'aile je puisse enfin renaître sous de nouveaux atours, jusqu'au prochain abîme qui m'ouvrira le ciel. Et quand j'aurai tout pleuré, tout souffert, tout laissé, quand je ne serai plus rien d'autre qu'un cœur battant d'amour, il viendra me chercher pour qu'en lui, pour toujours, je renaisse à jamais et sois toute en son tout. Oui, simplifie-moi toute, ô mon divin amour, qu'à tes pieds nus et saints je dépose un jour ce que j'ai pleuré pour toi en marchant sur la terre et qui sont ces haillons dont j'ai dû me défaire. Que pour te conquérir comme j'ai dû mourir, mourir à mes errances, mes folies et mes doutes, sur mes chemins de pauvreté, comme j'ai changé de route, te les donnerai tous en déposant ma lyre. Un poème qui parle de l'amitié. La balade des amis. Dans les mains de mes amis, il y a des rires qui sautent, qui courent, qui rient. La joie se boit en farandole au verre des vins d'ici. Et l'on trinque aux soucis et à toutes les fariboles des jours sombres de la vie. Quand s'ouvre la maison de vous, elle se remplit et la voici si belle avec vos cœurs unis. Le temps à vos côtés est comme une valse rose. Il tourbillonne partout. En vous, je me repose. Un feu de bois, une guitare et des chansons toute la nuit. Des mots, des rires, des mots. S'enfuit l'obscur, revient la vie. Dans les mains de mes amis se cachent aussi des larmes et des combats de guerre en robe de haillons. Vous les cachez si bien que si l'on y prend garde, par-dessous vos paupières ne se devine rien. Pour vous, le pain chaud posé dessus la table et des musiques douces pour reposer vos cœurs, et mis des nappes roses et jeté des pétales et ouvert les fenêtres entre la brise du soir. Plus chaud de nos heures, plus grand de nos vies, au feu de l'âtre nos cœurs de flamme, chantons, chantons encore ce cadeau de la vie que nous sommes tous ensemble, ô mes si chers amis. Alors quelques poèmes un peu plus engagés qui sont extraits d'un recueil qui s'appelle « J'écrirai pour vous dire » aux éditions Edit Livre. Un hommage aux tout-petits. Les tout-petits. Nous sommes les tout-petits, nous sommes les va-nu-pieds, Regarde ivrogne, chien, décharné. Nous sommes les tout-petits, nous sommes les oubliés. Nous sommes les invalides et les handicapés. Nos corps inertes traînent nos membres non terminés. Vivant d'indifférence, nous traversons la vie, comme votre arrogance, sur des radeaux blessés. Nous sommes les tout-petits, nous sommes les rejetés. Ceux que vos cœurs infirmes refoulent loin de vos jours décents. Nous sommes le peuple d'argile, le cœur des innocents, l'âme de vos vies stériles, d'un avenir plus grand. Un poème sur le chômage. Combien ? Combien de jours encore tenir ? Combien d'obstacles encore franchir ? Combien de portes ? Combien de ponts à ouvrir ou à jeter entre le vide et la vie ? Comment trouver la clé qui ouvre le sentier ? Seulement pouvoir entrer quelque part ? Seulement pouvoir donner et recevoir ? Seulement pouvoir offrir ma vie au monde. Eux ne voient rien. Eux n'entendent rien. Eux me refoulent toujours plus loin. Sur la société qui nous opprime et la société de consommation. Trop de mots recouvrent le monde. Trop de trop chaque jour nous encombre. Trop de bruit, d'artifices, de supplices infinis. Un jour, une heure peut-être, se retrouver en tête à tête avec le rien, avec le simple, avec le pur. Un jour, une heure peut-être, sans rien d'autre pour être que sa nudité première. Se tenir là, dans le halo des sources claires. Plus de trop sur nos jours et nos tombes, plus de mots pour asphyxier nos mondes, dans le halo des sources claires, dans le halo des sources claires.
Un poète ne vit pas très longtemps. Il se croque la vie à pleines dents. Brûle toutes cartouches en même temps, se moquant des faux culs, des faux semblants. Un poète ne vit pas très longtemps. Un poète ne vit pas très longtemps. Si vous l'avez cru voir vieillissant, son fantôme, son spectre, assurément, ou sa dernière blague d'étudiant. Un poète ne vit pas très longtemps. Un poète se meurt de temps en temps. Ce n'est pas la cohue à l'enterrement. Juste quelques amis, quelques parents. On n'a pas alerté les présidents. Un poète se meurt de temps en temps. Un poète se meurt de temps en temps. On ne retrouve pas de testament. Encore moins d'héritiers, de prétendants. Seule est là la compagne des jours sans. Un poète se meurt de temps en temps. Poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Et ça n'est jamais très très bien pensant. À la moindre injustice, ça va gueulant. Contre les cons, le vice et les puissants. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Ça ne craint ni l'exil, ni les tourments. Ça écrit quand t'es grand le dénuement, avec la dernière goutte de son sang. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Un poète, ça vit très très longtemps. Si j'ai dit le contraire, apparemment, c'est que les mots, c'est bien changeant. S'ils sont dits au passé ou au présent. Un poète, ça vit très très longtemps. un poète sa vie très très longtemps. On ne compte le nombre de ses enfants. Il en est chaque hiver, chaque printemps, qui la gloire du prophète vont chantant, un poète sa vie très très longtemps.
Alors nous allons écouter Maître Chan.
Oui.
Bon, petit enseignement de sagesse.
Voilà, cet extrait de Contes et enseignements de Maître Chan dans la collection Sagesse, donc dans mon édition À fleur d'âme. Et donc c'est le troisième conte du recueil, il y en a trois dans ce petit recueil. Celui-ci s'appelle Légende du dragon d'argent, c'est tiré d'une légende traditionnelle chinoise du peuple Miao.
Et... Quand tu as ouvert le livre, il y a des illustrations. Tu es à l'origine ces illustrations ?
Ah oui, c'est moi qui ai fait les illustrations. Je prends des cours de peinture traditionnelle chinoise avec un professeur qui vient de Pékin. Alors donc, la légende du dragon d'argent, c'est un peu... J'ai revisité complètement la légende traditionnelle des Miao, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. J'ai gardé juste le thème du ciel qui se déchire à cause donc des tourments des hommes sur la terre. Et après, moi, je suis partie dans autre chose. Un jour, un disciple s'adressa à Maître Chen en ces termes. « Maître, dit-il, pourquoi tant de souffrances dans le monde ?» Le maître fit silence, puis... Il lui conta cette histoire. Connais-tu la légende du dragon blanc et de la goutte de pluie ? Une goutte de pluie se demandait à quoi servait d'abreuver la terre et de la rendre fertile, si les hommes en contrepartie n'en prenaient pas soin et passaient leur vie à répandre malheur et mépris. Un jour, elle décida de partir en voyage pour trouver réponse à sa question. Avant de partir, le vent de vie lui dit : Il te faudra trouver une dent du dragon blanc. C'est pour recoudre le ciel qui se déchire soudain. Prends garde à son sommeil, c'est un fifi vilain. Si par malheur tu le réveilles, c'en est fini demain. Recoudre le ciel, recoudre le ciel. Pourquoi recoudre le ciel ? Se demandait la petite goutte en entamant sa quête. Quel grand malheur tombe sur les hommes. Le ciel se déchire, le ciel se déchire. Elle partit. Elle traversa plaines et montagnes, survola lacs et rivières, plaines et déserts immenses. Mais pas de traces de dragon blanc. Arrivant au pied d'une montagne, elle se demandait si elle devait en franchir les pics, lorsqu'une longue corde de cheveux tressés se déroula jusqu'à elle, comme tombée du ciel. Les cheveux étaient d'argent et semblaient si robustes. « Voilà une corde bien étrange, » se dit en elle-même la goutte de pluie. « Mais après tout, puisque la voilà, je monte. » Et elle grimpa, grimpa, grimpa. Arrivée tout en haut, elle vit un homme sage. Assis sur un nuage, il contemplait le monde. « Où est le dragon blanc ? Comment avoir sa dent ? C'est pour recoudre le ciel qui se déchire soudain, menaçant notre terre et la vie des humains. » Demande alors la goutte au vieillard immobile. « Qui te dit qu'une dent à elle seule peut suffire ? » Dit le vieil homme. « Si le ciel se déchire, c'est qu'il lui manque aussi un peu d'amour des hommes. » Enfermés dans leurs tâches, ils en oublient l'essentiel, et le ciel n'en peut plus de veiller sur leur vie, ingrates et têtues. Mais où trouver l'amour ? Demande la goutte sans trop savoir. Il est partout, il n'est nulle part, et la souffrance le masque de part en part. Dans le cœur des mères qui font naître à la terre des enfants par millions. Dans le courage des pères accrochés aux rizières, du printemps à l'hiver. Mais plus encore que tout ceci, l'univers a besoin de chants et de danses, pour qu'au printemps les semences ne se perdent pas dans le vent. Pour que chante l'amour aux quatre coins de la terre, il lui faut des cœurs vrais, ardents comme des flammes, des prières et des danses tout le jour durant. La goutte dit « Merci » et partit. Elle chercha des villages, espérant trouver là l'amour en partage. Elle le vit en effet, accroché aux fenêtres, dans des cages d'osier, à l'abri, prisonnier. L'amour était bien là, mais il ne servait guère, chacun le retenant en son petit quant à soi. Ouvrez les portes, ouvrez les cages, cria la goutte aux gens pressés. Ne laissez pas l'amour en cage, l'univers va se briser. On se moqua, on la chassa, chacun voulant l'amour pour soi. Le ciel craque, la terre tremble, ouvrez les cages, avant la rage du dragon blanc. » On fit la sourde oreille. Alors souffla le vent. Les femmes et les enfants rentrèrent leurs cages à double tour, fermèrent les portes en écoutant craquer le temps. « Ouvrez les cages, sortez l'oiseau, l'oiseau d'amour, l'oiseau sans âge, l'oiseau du jour. » Une petite fille sortit sans bruit, ouvrit sa cage à l'oiseau d'or, qui sans rien dire au loin, s'enfuit. Dans le fracas du ciel et de la terre ensemble, les gens eurent peur, ouvrirent leur cœur. Des cages bien fermées, on fit sortir l'amour, milliers d'oiseaux en vol. Rassemblés au-dessus du village, prêts à quitter la terre, à tire-d'aile, ils s'envolèrent. La goutte de pluie leur indiqua le chemin de la montagne où le vieillard se trouve assis. En haut des cimes, plus de vieux maître. Un dragon blanc en avait pris la place. Sa rage était totale, sa bouche crachait du feu, sa queue balayait jusqu'aux étoiles, et même la lune et les astres se décrochaient. La fissure dans le ciel était comme plaie béante. Mugissaient les quatre souffles s'abattant sur le monde, l'univers saignait comme volcan de lave. Comment arrêter la colère du dragon blanc? Lui ôter une dent sera-t-il chose facile? Se demandait la goutte tout en tremblant. Autour du vieux monstre déchaîné, les oiseaux priaient sans bruit. De leurs cœurs unis, une lumière jaillit, atteignant le dragon, qui s'apaisa enfin. Que me voulez-vous? Vous le voyez, il est trop tard. Le ciel se craque, la terre s'ouvre, et ma colère est telle que rien ne peut en calmer l'ardeur. J'ai trop attendu, vous dis-je, trop espéré, trop retenu, il est trop tard. Allez-vous-en, tout est fini. En cet instant funeste, il y eut un petit bruit. Du bord de la montagne, des petites mains surgirent, et des têtes d'enfants apparurent soudain, par dizaines, par centaines, suppliant et pleurant. S'il te plaît, dragon d'argent, accorde-nous juste une dent pour recoudre le ciel et remettre du miel dans le cœur des gens. Le dragon se figea. Devant l'enfance, il ne trouva rien à dire, ni à maudire. Il pleura, se courba, la leur donna. La dent était précieuse, brillante comme sous d'argent. Enfants et oiseaux s'envolèrent vers la blessure du ciel et recousirent la plaie. Au même instant cessèrent les guerres, les violences, les courroux. Les rivières rentrèrent dans leurs lits, les montagnes s'apaisèrent, la terre ne se souleva plus. Les hommes parlaient aux hommes, se regardant sans peur. Tout était redevenu comme au premier jour du monde, et ce fut un nouveau monde. Alors l'enseignement de Maître Tien, c'est depuis lors que terre et ciel ne font qu'un. Mais la vie est fragile, inconstant les humains. Prends garde à la cage de ton cœur, prends soin de l'oiseau qui y vit, et n'oublie pas qu'il se partage en toute heure et tout lieu dans le temps de ta vie.
Thank you. Ta poésie porte en elle l'amour, l'indignation qu'on a vu, la révolte et bien sûr l'espoir. Elle sait mettre en évidence la vie quotidienne et aussi les paysages de la solitude. Elle est aussi pour toi un engagement au service du monde à venir. Dans tes engagements, tu t'es fixé quelques objectifs.
Alors je vais vous parler des projets rapidement. Donc je vais essayer de continuer à faire quelques récitals dans le coin. Avec des partages artistiques, il y en a quelques-uns. Donc, je commence par exemple jeudi, je serai sur scène à Frontignan devant 300 personnes. C'est un spectacle vivant sur le thème de la femme. Et donc là, c'est théâtre, musique, danse. Et moi, j'apporterai ma contribution poétique. Voilà, et je cherche aussi des musiciens pour m'accompagner, notamment en musique traditionnelle chinoise. Et j'ai peut-être une piste, donc je vous en dirai plus bientôt. Deux fêtes, donc la mouture 2015 de la fête du livre et du patrimoine de Saint-Jean de Buège. On n'a pas encore repris tout ça, mais bon, c'est sur les rails. Mmh. Donc une nouvelle date sera programmée bientôt en 2015. Le scoop, c'est qu'on va essayer de faire une fête de la poésie à Saint-Guillaume-le-Désert.
Au lieu spirituel.
Au lieu spirituel. Donc, pour l'instant, je n'en dis pas plus parce qu'on est au début du processus. Mais voilà, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Et autre chose, donc deux projets de livres. Un livre qui va présenter ma dimension spirituelle au travers de poésie poétique et mystique et des méditations personnelles.
Quelques prières.
Oui. Beaucoup, essentiellement d'ailleurs. Et je me lance. Et puis, un partenariat artistique avec mon amie photographe Nancy Ricard. On va essayer de partir en campagne, photographier des belles choses un peu inédites dans notre région et faire un livre associant photos et poésie.
Autour des paysages et des monuments?
Oui, de ce qu'on va trouver en chemin.
Donc c'est...
Le patrimoine au sens large, on va dire.
La création se fera au fur et à mesure de la marche.
Complètement.
D'accord. Alors on va terminer cette émission avec quelques lectures de poèmes.
Alors, donc on va rester en Chine après Maître Tien. Oui. Donc là, ce sont deux poèmes qui ont été écrits dans une région magnifique, le lac de l'Ouest, la ville de Hangzhou.
Je connais très bien.
Que tu connais très bien, qui t'a inspiré, je crois, aussi, oui. des choses magnifiques. Alors, le premier, c'est la légende des amoureux du lac de l'Ouest que j'ai essayé de rendre en poème. L'air est moite et d'ambre le lac en contrebas. Chevauchant fiers et droits les bordures immobiles, les lotus blancs et roses se mêlent aux idylles des amoureux d'ailleurs, accourant çà et là. On se promène ici des quatre coins du monde, sur les ponts et les barques ou en ombrelles de soie. Dans les jeux nonchalants des reflets et des ombres s'y croisent des regards et des sourires courtois. On raconte qu'une belle, éprise d'un jeune prince, d'un amour contrarié dans le lac se jeta. Qu'un vol de grues blanches, pleurant cette romance, avertit le jeune homme qui à leurs ailes s'accrocha. On peut les voir encore voler tout près du lac, dans un balai de plumes unis au firmament, par brassés dans le vent, des amoureux embarquent, leur jettent des pétales et se jurent des serments. Les nuits de pleine lune revient danser la belle, et des étoiles brillent aux yeux de ses amants qui, penchés sur les flots au rire des demoiselles, leur jettent des pétales en d'éternels serments. Alors il y a une pagode absolument extraordinaire qui s'appelle la pagode des six harmonies, c'est vraiment le nom de cette pagode, tu connais.
Ah oui.
Il y a une qualité de silence merveilleuse, le jardin est une invitation à un voyage initiatique. Et voilà, j'ai voulu écrire ceci. La pagode des six harmonies. Sur la colline au vent, teinte cloche légère. Une pagode rouge, en un divin mystère, s'élève vers les nues en de douces prières. Si l'on marche un peu au milieu des grands arbres, le silence vous cueille au plus profond de l'âme et laisse à jamais ce je ne sais quoi qui vous remplit de tout sans que l'on sache pourquoi. Oh, restez là encore sous les bambous de jade et goûter à la paix des seigneurs et des rois. À la pagode rouge, demain, venir s'asseoir et oublier le monde et ses cris et ses lois. Te souviens-tu des petits pas sur l'eau que nous devions franchir pour passer l'autre rive? Parvenu jusqu'au centre, quelle divine surprise, un petit temple encore dressé dessus les flots. Nous sommes restés là, du matin jusqu'au soir. Le temps n'était plus rien que ce lac en miroir. Quand s'ouvrent grand les mains, se touchent les murmures du vent, de l'eau, du rien, puis glissent des nuages en haut dans les ramures. Des carpes d'or sautaient au creux de tes deux mains. Cet endroit se découvre en passant porte ronde, blanchi à la chaux et gardé par des lions. De pierre ils sont, mais leur âme est vivante et veille sur ces lieux encore pétris d'histoire. C'est en fermant les yeux qu'ici tout peut se voir et s'entendre les murmures des hommes sans armure. Oui, c'est en fermant les yeux qu'ici tout peut se voir et s'entendre les murmures des hommes sans armure.
Merci Marie, on arrive au terme de l'émission. Il serait intéressant que tu rappelles aux auditeurs tes livres, les titres de tes livres dont sont extraits tes poèmes.
Alors, je vous ai lu des poèmes extraits qu'on trouve dans toutes les librairies, aux éditions Edit Livres, pour que chante l'enfance. J'écrirai pour vous dire Méditation au mont Wang Shan. Marie Thuillet. Thuillet s'écrit T-U-Y-E-T. Donc ça, vous le trouvez partout, y compris sur les sites internet, Amazon, etc. Pour les autres poésies, il y en a qui ne sont pas encore publiées. Donc c'était un peu la première fois que je les partageais. Sinon, il faut me contacter via mes sites internet. Je vous ai lu des extraits de Les Volcans de Braise et des extraits de donc, le conte de Maître Chen, conte et enseignement de Maître Chen, qui sont dans mon auto-édition à Fleur d'âme.
On peut te retrouver sur scène à Frontignan.
Oui, ce jeudi 16 octobre et certainement lors de la journée de la femme le 7 mars également.
D'accord. Merci Marie.
Merci infiniment.
Rediffusion de l'émission de 20h à 21h. Le prochain rendez-vous de Traces de Lumière sera consacré à la rencontre du Mana, itinéraire spirituel, à l'île de Pâques. Bonne semaine à tous. Thank you.